Votre matinale info, Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
8h16, c'est l'interview du dimanche et je reçois Patrick Roger. Bonjour Patrick Roger.
Bonjour.
52 ans, vous êtes né au Poilet dans le Perche, vous êtes très vite meilleur ouvrier de France. Le chocolat pour vous est une révélation, mais j'ai pas envie de parler de chocolat avec vous, même si vous êtes venu, et on le voit sur Europe1.fr, on le voit, vous êtes venu avec des sapins en chocolat. Mais on va quand même dire un petit mot de chocolat avant. Pour la perte économique en 2020, 2020 a été une annus horribilis pour beaucoup de monde. Pour l'entreprise Patrick Roger, en chiffres, ça donne quoi?
C'est moins 30%. Et puis c'est consolidé sur l'achat de chocolat, surtout moins 27%. Donc on est en accord avec nous-mêmes. Donc ça c'est extrêmement dur, effectivement. On sort pas trop mal sur Noël, ça va aller à peu près. Mais après la suite, PGE, la dette qui monte vraiment très très fort, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que c'est des prêts qui devront être remboursés.
Complètement, oui. Donc le PGE, on ne sait pas trop ce qui se passe. Effectivement, comment on le rembourse?
Ça veut dire quoi, on ne sait pas trop ce qui se passe? On n'a pas d'infos?
En gros, soit on le remboursait tout de suite et c'est facile et c'était à 0% à peu près. Et après, la suite, on n'en sait, on ne sait pas. Et simplement, on n'a pas payé la dette non plus. L'emprunt normal. Donc tu te retrouves avec pas mal de trésorerie. T'es plutôt solide, mais t'as rien remboursé.
D'accord. Et donc ça vous fait peur?
On va voir la suite.
Parce que vous êtes d'un naturel plutôt, j'allais dire, relax.
Ouais, et puis je suis positif, j'y crois toujours. Et même au tennis, par exemple, je jouais contre une fille et je perdais 5-0 et je pensais que j'allais gagner, quoi. Contre Pascal Rimbaud, c'était trop marrant. Je finissais par perdre. Ouais. Donc je peux avoir une grande gueule et finalement, tu peux t'écrouler, quoi.
C'est ça le Patrick Roger, chers auditeurs, que vous entendez ce matin. Vous voyez des boîtes vertes, ce vert un peu énigmatique d'ailleurs, je crois savoir d'ailleurs d'où il vient. Mais vous n'entendez pas peut-être ce Patrick Roger qui est un vrai humaniste, observateur du monde. Derrière l'entreprise, il y a évidemment des hommes. Quand on visite votre atelier, on voit ces hommes-là qui sont votre légion, qui viennent d'ailleurs parfois de la Légion étrangère.
Ouais, vous avez repris tous étrangers, ouais.
Des militaires.
Ouais.
Qu'est-ce que ça vous fait, cet impact du Covid-19, cette espèce de pandémie qui est arrivée, qui a arrêté le monde? Qu'est-ce que ça vous fait au niveau humain?
Alors, à l'atelier, on le voit pas trop, finalement. Et je suis quelqu'un qui sort très peu. J'ai une vie extrêmement de moine, quasiment.
Vous êtes un ermite?
Ouais,
vous habitez au fond d'un jardin.
Mais j'ai un peu peur quand même de cette solitude. Je crains fortement la solitude et de m'isoler surtout. Mais effectivement, à l'atelier, nous, on a une vie extraordinaire. C'est ça. C'est aussi la France. Ce côté exceptionnel que l'on a de pouvoir travailler, de faire quelque chose qui est extrêmement beau. C'est souvent après ça où je suis en rogne aussi. Évidemment.
Ouais. Vous êtes en rogne?
Ouais. Le chômage, par exemple. C'est quelque chose, pour moi, ça devrait pas exister. On devrait couper la poire en deux.
Et les gens qui vous disent, par exemple, vous souvenez-vous de cette phrase de François Mitterrand, il disait « le chômage, on a tout essayé ».
Non, je crois pas. Non, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est sans doute un des principaux problèmes. On peut pas... en chômage partiel, les gens gagnent autant que ceux qui travaillent. Il y a un souci, quoi. Mais réel. Et pour moi, ça, c'est un des principaux problèmes de la France. Faut arrêter le chômage. On a besoin de monde. On est une équipe...
Vous voudriez supprimer le chômage?
On doit diviser un petit peu ce que l'on touche, surtout. On ne peut pas gagner autant. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer des travailleurs pauvres. Ça m'a fait pleurer plusieurs fois. Pourtant, je suis dur, je suis dur à cuire. Mais les gars, les filles que l'on a, les employés, c'est une famille, c'est super important. Et on fait travailler 50, 60 personnes et peut-être 150 fournisseurs autour. Ça veut dire 200 familles. Et de faire travailler des gens ou pas les laisser travailler... Ça aussi, c'est un des sujets en France. On n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de travailler plus. Là, vous avez Paul, qui vient de Barcelone, sur cette photo. Et Daniel, qui vient du Brésil. Et c'est des gars, ils sont pas là pour s'amuser, quoi. C'est vraiment des travailleurs. Et la chance d'avoir travaillé avec une équipe comme ça, avec Stefano, Daisuke et tous, c'est fantastique, quoi. De pouvoir travailler aussi. On n'a pas le droit de travailler plus que le temps de travail aussi.
Ouais.
Pour des gens comme ça.
Et vous pensez qu'on ne devrait pas compter les heures, qu'on devrait travailler autant qu'on veut?
Surtout, je ne sais pas, un gamin qui avait 20 ans, il passait la nuit avec moi, avant je pouvais lui donner 500€ pour la nuit.
Ouais. Et vous-même, vous avez été ce gamin quand vous avez commencé le métier?
Je ne sais pas si j'ai beaucoup changé d'ailleurs.
L'humain pour vous, je le disais, est important aussi parce que vous avez, à force d'essayer de trouver le meilleur chocolat, les meilleures pépites, les meilleures fèves de cacao, vous avez voyagé dans le monde entier. Vous avez fait des rencontres. Vous avez fait des rencontres en Afrique, au fin fond de l'Équateur. Vous avez rencontré des gens, et pas que des gens, vous avez rencontré des grands singes. Tout ça, ça vous a inspiré. Vous êtes revenu avec une forme de, j'allais pas dire de résilience, mais vous savez quand même faire le tri entre les choses importantes et pas.
Ouais, bien sûr. L'un des derniers grands voyages, c'est le Nord Kivu, par exemple. Donc ça, tu sors pas indemne d'un endroit.
Pourquoi?
Ben, d'abord, on arrive par le Rwanda, on rentre à Goma. Goma, on est au pied du Rwenzori, du Virunga aussi, donc on rentre dans une nature qui est c'est hors norme, et une population qui vit avec moins d'un dollar par jour aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Si je prends mes impôts, URSSAF, TVA, impôts sur la société, par exemple, on pourrait mettre 200 000 gamins à l'école en Afrique par an, juste avec mes impôts, qui sont le double de ma dette au départ. Non, le triple, ouais. Le double maintenant, ouais. Et avant c'était le triple. Et c'est quelque chose qui me fait, ça fait beaucoup de peine quoi.
Ça fait beaucoup de peine, et aussi parce que vos sculptures, on va en parler dans un instant, sont représentées, figurent, il y en a qui sont à l'ONU, aux Nations Unies. Vous avez l'impression que pour ces choses-là qu'on vient de mentionner, on fait rien?
Bah ouais, est-ce que vous savez combien coûte un gamin à l'école en Afrique?
Vous allez me le dire.
Ouais, 9 dollars. Pour l'année.
Qu'est-ce que ça veut dire coûte? Combien coûte?
C'est-à-dire pour 9 dollars, on peut mettre à l'école un an, en gros.
Pour 9 dollars.
Peut-être que c'est 12 maintenant. Voilà. Et c'est là où tu te dis que on tourne pas rond, quoi. On a vraiment les moyens. Et j'ai vraiment trouvé aussi, par exemple, sur l'immigration, que c'était plus facile, peut-être, de vivre en Afrique qu'être porte de la chapelle, puisque la croissance est forte. Ils ont une énergie qui est absolument dingue aussi. C'est ça qui est. Et il y a beaucoup d'espoir. Ouais. À la fois, il y a du désespoir, mais il y a tellement d'espoir parce qu'ils ont faim.
C'est-à-dire que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a des dossiers juxtaposés les uns contre les autres et qu'il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de fil conducteur. Et c'est ça que vous voudriez que les dirigeants de ce monde trouvent, c'est ça?
Bien sûr, c'est d'être pluriel aussi. C'est ça qui est difficile, c'est qui dirige le monde demain, comment on le dirige, par quoi? Est-ce que c'est la religion, c'est la politique? Souvent je dis, aujourd'hui il n'y a plus de patron, il n'y a plus de journaliste, il n'y a pas de scientifique, il n'y a plus de politique non plus réellement. Tu ne sais pas où on est dans ce système qui est extrêmement complexe, puisqu'on vit beaucoup avec les réseaux sociaux aussi. Chacun prend la parole sur tout, on ne sait même plus ce qu'on dit, y compris moi. Hein. C'est ça qui est super important.
Bon, j'ai l'impression que vous savez ce que vous dites. Et vous savez ce que vous faites.
Économie réelle.
Et vous savez ce que vous faites. D'abord, vous faites du chocolat. Vous rendez ce plaisir infime qu'on peut avoir avec un carré de chocolat aux gens. Et puis vous sculptez. C'est là que je voulais en venir. Les gens vous ont peut-être récemment découvert en tant que sculpteur. En tout cas, on peut voir vos sculptures dans certains magasins. Patrick Roger, évidemment. Et parmi ces sculptures, c'est peut-être une façon de dire les choses, les choses que vous voulez dire. Il y a des sculptures qui sont, j'allais dire, très, très dures, comme l'excision.
Ouais, c'est une découverte qui est récente. Je ne sais même pas où je découvre ça, mais peut-être 5 ou 6 ans. On ne sait même pas. J'ai la chance de ne pas avoir d'éducation. Ça m'émeut beaucoup. Et le fait de découvrir ça, tu te dis, mais on est complètement à la masse, c'est évident, quoi. Et l'éducation, on parle souvent de l'éducation des filles, mais l'éducation des garçons aussi. Tout ça, on ne peut pas vivre. La chance que j'ai eue avec ce métier, c'est que ça m'ouvre le monde entier. Et effectivement, par la sculpture, c'est quelque chose que l'on peut transmettre très fort. Il n'y a pas besoin de mots. Cette sculpture fait 1200 mètres carrés. Et évidemment, voilà, c'est sans doute un des grands messages. Mais qu'est-ce que l'on fait?
Elle est où maintenant, cette sculpture?
Pour l'instant, au bout de 2 ans, on vient de finir le moulage. Et après, c'est une question de moyens pour pouvoir évidemment la produire. 1200 mètres carrés en bronze ou en aluminium. Il y a énormément de sujets à l'intérieur. C'est pas que l'excision. L'excision est aussi un prétexte pour parler, c'est évident. Il faut dire que ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est essentiel. Le monde. On a besoin de tout le monde pour vivre. Je ne comprends pas les frontières, par exemple.
Il y a des sculptures, on en a parlé, on les a vues, les sculptures de Teddy Riner, de Gérard Depardieu, de Michael Jackson. Mais ces sujets-là, qui sont des sujets forts, c'est ça que vous voulez dire maintenant?
Ah, j'ai besoin de l'ensemble. Quand Michael Jackson chante, l'émotion, elle est tellement forte. C'est... Ouais. Ou si on prend Madonna, j'ai travaillé sur Like a Virgin, par exemple, qui aujourd'hui qui a un trophée, par exemple, offert par la FIA et Jean Todt au plus grand pilote du monde. Et ça, c'est exceptionnel aussi de pouvoir se retrouver, cet enfant, gamin d'un petit village, et se retrouver avec le monde, ou même être avec vous, c'est exceptionnel.
Alors, ça nous touche parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Patrick Roger qui vous découvre à travers... la sculpture. Il y a les sculptures des papes. Alors, on ne sait pas, on se dit, certains se disent, est-ce qu'il est anticlérical? Est-ce qu'il y a un problème avec le pape? Est-ce qu'il y a un problème avec la religion? Est-ce que la religion est un problème? Est-ce que la religion est un vecteur?
J'ai de problèmes avec rien. C'était assez marrant. J'aime bien m'amuser, ben, surtout avec tous les garçons que j'ai et filles à l'atelier, puisque nous sommes de... Il y a tellement de nationalités. Le Brésilien, tu dis, mais la capitale, c'est Buenos Aires. Ça le pique et ça l'excite. C'est quelque chose où j'en joue, surtout. Mais le pape, il naît simplement... Je regardais Euronews, le bandeau d'Euronews. Oui. Je vois des filles dans le pape. Et c'est comme ça que la création
arrive.
Et
c'est pour ça que vous avez mis une fille dans une oreille.
Complètement.
Dans la tête de ces papes. Et alors, vous avez réussi quand même, ces papes, très récemment, à les vendre, ces sculptures.
C'est ça.
Donc
ouais.
Là, il y a des gens qui, non seulement achètent du chocolat Patrick Roger, mais achètent des sculptures de Patrick Roger. Comment est-ce qu'on arrive à faire les deux?
Là, c'est un franco-russe. On vient d'ouvrir en Russie. Et hier, j'ai vendu aussi une demoiselle, une femme qui est passée à l'atelier. Je viens de vendre aussi un marbre. Et ça, c'est exceptionnel aussi, parce que ça permet de continuer tout simplement ce que l'on fait. Cette vie aussi d'artisan, de chocolatier, bien sûr. Mais l'artiste, il est temps qu'il prenne aussi un peu la relève, parce que pour faire vivre une société comme on a, c'est la société, l'entreprise. Et l'entreprise, c'est pas que Patrick Roger qui est en peine dans ce monde oui. un peu complexe.
Non mais vous êtes en peine, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes du même secteur et d'autres secteurs qui sont en peine.
Oui,
c'est pour
bien
ça qu'on
sûr, c'est, et je pense que c'est même que nous on aille mal, c'est une chose. Mais quand c'est le monde qui va mal, c'est bien plus grave.
Ça
ouais, les diamants, l'émeraude.
L'émeraude ouais. verte,
Colombie.
C'est ça qui donne la couleur de...
Bah, c'est là où on la retrouve à l'état naturel, mais ce n'est pas la raison au départ de la boîte et de la couleur.
Ah oui, ça ouais. c'est l'énigme pour ceux qui connaissent
non,
les...
Non, trois personnes ont trouvé, trois.
Mais c'est à trouver, on va trouver quand même d'où vient ce vert de votre emballage, de vos emballages. Merci beaucoup Patrick Roger.
Merci.
D'avoir discuté avec nous librement. Sur Europe 1, de votre sculpture, de votre travail, qui est un témoignage des choses qu'on devrait peut-être plus dire et plus entendre dans ce monde qui change. Merci beaucoup.
Merci.